Donc derrière moi, le père Thierry Aval, qui est de près du diocèse de Paris, membre de la communauté de l'Emmanuel, qui dans cette faculté enseigne la philosophie. Il est aussi le bibliothécaire de la faculté. Vient à achever il y a quelques mois, ou même un peu plus d'un an peut-être, non? Un an, sa thèse de doctorat en philosophie. Donc il va vous en donner en quelque sorte la substantifique moelle aujourd'hui. Le titre de la leçon, de la conférence, est « L'enfant maître de simplicité ». Je passe donc la parole à un enfant qui a beaucoup grandi.
Donc, je vais parler avec le micro un peu plus près pour que vous puissiez m'entendre distinctement. S'il y a un problème, vous me le signalez au niveau du micro. Donc le titre de cet entretien... C'est donc l'enfant maître de simplicité. Alors l'enfant a été pendant longtemps un impensé philosophique parce que les philosophes et la plupart des hommes ne le considéraient pas comme digne d'intérêt. Au XXe siècle, s'est réalisée une révolution extraordinaire dont on n'a peut-être pas encore pris la mesure. Dans la manière de considérer l'enfant au plan philosophique, révolution qui avait déjà initié quelque peu au cours des siècles précédents par des hommes comme Montaigne, Fénelon, Locke ou Rousseau. Mais il semble qu'au XXe siècle, on ait commencé à prendre l'enfant un peu plus au sérieux. Alors on peut citer parmi ceux qui ont contribué à ce mouvement une femme, Maria Montessori, grande pédagogue du début du XXe siècle, qui a appris au monde à se mettre au niveau de l'enfant pour découvrir sa grandeur. Autrement dit, ne pas simplement regarder l'enfant pour le comparer à l'adulte, mais considérer l'enfant en lui-même. Gustav Sievert, S-I-E-W-E-R-T-H, retenez bien ce nom, complètement inconnu en France malheureusement, mort en 1963, une très belle année, fut pour sa part, mais je ne suis pas sa réincarnation pour autant, fut pour sa part l'un des tout premiers philosophes à tenter de mettre en lumière la profondeur de ce que vit l'enfant, en particulier dans un livre qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies en France, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Donc, métaphysique de l'enfance, aux sources de l'amour. Sievert a inspiré des intellectuels comme Hans-Urs von Balthasar, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui le considérait comme un des lumières les plus grandes du XXe siècle, Ferdinand Ulrich, Claude Bruer. Il n'a pas été d'autre part le seul à initier ce chemin vers l'enfance. Vous entendrez parler ici abondamment d'un philosophe comme Gaston Fessard. Dans la ligne d'inspiration de Sievert, j'ai donc moi-même soutenu une thèse de philosophie intitulée « L'enfant maître de simplicité, phénoménologie de l'enfance » qui devrait être éditée un de ces quatre, quand Dieu le voudra, et que moi-même j'aurai envoyé le script à l'éditeur. Il faut articuler les causes premières, la cause première et les causes secondes pour arriver au résultat. Bon. Alors, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que Maria Montessori, aussi bien que Gustav Sievert, était de fervent catholique. Et donc, l'homme qui prend l'enfant au sérieux peut avoir été mis en mouvement particulier par l'appel du Christ à accueillir cet enfant qu'il met au milieu de ses apôtres, ou à devenir comme des enfants. Parole que Thérèse de l'Enfant Jésus a méditée et vécue. Parole qui n'en finit pas de féconder l'agir et la pensée, mais qui prend son temps, puisqu'on le voit au niveau philosophique, il a fallu peut-être plus de 20 siècles pour que cette parole ait un impact dans les consciences. Donc pour ma part, vous l'aurez compris, je me borne à considérer l'enfant du point de vue philosophique. L'enfant, avant qu'il n'ait atteint l'âge de raison, et vous savez que traditionnellement on situe l'âge de raison à 7 ans. Alors, je ne rentre pas sur le fait de savoir si le jour de son anniversaire, il devient plus raisonnable que la veille. Ne caricaturez pas mon propos. Alors, en regardant un enfant, on peut se poser la question suivante. Finalement, qu'est-ce qu'être enfant? Qu'est-ce qui caractérise l'enfant? Y a-t-il dans l'enfant un mystère de l'esprit? Quel est ce paradoxe qui fait que certains découvrent, dans son indigence, la plus grande des richesses? Et donc, dans cette conférence, dans ce petit dialogue avec vous, enfin, que j'assume tout entier, puisque vous êtes du côté de l'écoute, je voudrais vous dire quelque chose de cette simplicité de l'enfant, simplicité que l'on appelle parfois à juste titre naïveté, propos qui prend parfois une résonance négative, mais aussi, il arrive, heureusement aussi, une résonance positive dans la bouche de ceux qui en parlent. Et je voudrais vous encourager à découvrir que cette naïveté de l'enfant est parfois beaucoup plus sage que la sagesse des grands. Je me vois plagier ici la première épître aux Corinthiens, mais il faut bien se laisser inspirer par la théologie, source de tant de vérité. Dans un premier temps, je vous parlerai d'abord de la pauvreté de l'enfant, parce qu'elle est en quelque sorte ce qui s'offre en premier au regard. Quand on voit un enfant, ce qui frappe en premier, c'est qu'il est pauvre, dispose de peu de choses. Et puis ensuite, je vous montrerai comment, au cœur même de cette pauvreté, on découvre dans l'enfant une puissance, la puissance de son être filial, de son être fils. Avant de terminer sur une considération sur la profondeur de la perception intuitive de l'enfant, qui s'exprime en particulier dans son ouverture à la transcendance. Alors, si vous ne notez pas ce que je vous dis là, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous aurez mon bouquin qui sortira bientôt, et vous aurez les choses de manière beaucoup plus précise et exhaustive dans le bouquin. Je ne fais ici que initier quelques chemins. Donc, commençons par cette simplicité de l'enfant, cette pauvreté de l'enfant, plus exactement, sur laquelle tout le monde s'accorde, tout le monde est d'accord pour dire que l'enfant est pauvre. Dans le sein de sa mère, à la naissance, au berceau, dans sa maturation progressive, l'enfant exige sans cesse sa pauvreté. Il ne peut rien sans autrui, en tout cas pas grand-chose, sans l'amour, sans la paix, sans la sécurité qu'on lui procure. C'est un être dépendant. Cette dépendance se redouble dans son attachement à ses parents ou à ceux qui les représentent. Laisser un enfant sans soutien, il meurt. Alors si l'enfant est si dépendant d'autrui, est-ce parce qu'il n'a rien en lui-même, ou voire même parce qu'il n'est rien? Et cela nous invite à nous poser la question suivante, est-ce que le commencement de la vie est un néant d'être? Est-ce qu'on commence à zéro pour arriver ensuite à un niveau que chacun peut apprécier à sa manière? L'enfant part-il de rien pour arriver à quelque chose? Autrement dit, si l'on voyait les choses comme ça, le sens de l'existence, ce serait arriver à accumuler le plus de choses possibles au cours de son existence en grandissant. Alors cette question pose une nouvelle question. Vous savez que la philosophie, c'est l'art de poser des questions, comme Heidegger nous l'a rappelé. Mais peut-on arriver à quelque chose, à un accomplissement quelconque, quand on part de rien? Est-il possible d'arriver à quelque chose quand on part de rien? Du point de vue métaphysique, c'est absolument impossible. Si on n'a rien, si on n'a aucune potentialité au départ, aucune capacité, aucune puissance, on ne peut pas acquérir quoi que ce soit. Le rien ne fait que se redoubler. Donc, l'enfant ne part pas de rien. Il y a ce que j'appelle en lui un surcroît originaire qui ouvre l'avenir. Quelque chose qui fait que l'enfant a un avenir. Je suppose que vous avez vous-même déjà contemplé un petit enfant qui dort. On sent dans ce petit être parfois levé sur lui-même une profonde paix. Peut-être que juste avant de dormir, il était infernal, mais au moment où il dort, on sent une profonde paix. Un être d'esprit remis à lui-même. Claude Brouwer décrit à merveille, dans son livre majeur « L'être et l'esprit », une autre manifestation de l'être d'esprit de l'enfant. En particulier, il manifeste à travers une explicitation du sourire. je cite Claude Bruère, « La joie des parents au premier sourire de l'enfant, c'est l'allégresse en présence de l'être manifeste, à la prime parution de l'esprit, manifestation d'un être en surplénitude substantielle, qui repose sur lui-même, jaloux du mystère de son origine, seul détenteur de sa destinée personnelle. » L'être et l'esprit, page 36. On a entendu tout à l'heure des paroles sur le mystère. Quand on contemple un enfant qui dort, quand on regarde son sourire, sa capacité de s'émerveiller, on découvre que cet être n'est pas simplement une pauvreté et un néant, mais on peut devenir sensible à la dimension du mystère. Alors, en métaphysique, on utilise traditionnellement des catégories que ceux qui ont déjà suivi un cours sur le sujet connaissent, les catégories de puissance et d'acte. Or, il me semble que ces catégories sont impuissantes, ou du moins insuffisantes, plus exactement, pour appréhender la grandeur originelle et fragile de l'enfant dans sa genèse. Pourquoi ? Parce que ces catégories, telles qu'elles ont été traditionnellement pensées, eh bien, indiquent une priorité unilatérale de l'acte sur la puissance. C'est mieux d'être en acte qu'en puissance. Mais précisément, elles ne permettent pas de dire tout le paradoxe de la vie en son commencement. En effet, si l'on en reste à ces catégories de puissance et d'acte, que j'apprécie, puisque vous savez, enfin ceux qui me connaissent savent que je suis un fan de saint Thomas d'Aquin. Donc s'il en reste à ces catégories de puissance et d'acte, mais vous savez que ces catégories ne datent pas de saint Thomas, mais d'Aristote. Ah bon, je ne vais pas aller trop loin dans ma parenthèse, sinon je vais rester 2 heures dessus. Donc, selon ces catégories, l'enfant serait le moment où l'homme est le plus en puissance, et donc le moins accompli. C'est vrai de quelque manière. Bien sûr, l'enfant va devoir mûrir et développer, déployer ses capacités dont, qui sont aussi en puissance. Mais dire cela, c'est aussi passer à côté d'un mystère d'une richesse étonnante. Autrement dit, ce mystère de surcroît originel que l'on a chez l'enfant et que je vais quelque peu expliciter pour vous le montrer plus encore. Et donc ce paradoxe de l'enfant, ce paradoxe de la richesse dans la pauvreté, que l'on trouve chez l'enfant, mais pas seulement chez lui, doit s'expliciter à partir d'autres notions, précisément à partir de ces notions de richesse et de pauvreté qui peuvent mieux dire le paradoxe, et que j'ai retrouvé chez un autre philosophe allemand qui n'est absolument pas connu en France aussi, comme quoi vous voyez qu'il y a encore beaucoup de richesses à explorer dans notre francophonie, Ferdinand Ulrich. Lui-même, comme je vous le disais tout à l'heure, disciple de Sievert et qui a aussi inspiré Balthazar. Richesse et pauvreté, eh bien, ce sont aussi des catégories qu'on trouve dans la Bible. Je fais cette petite référence avec ces paradoxes du Christ qui nous enrichit par sa pauvreté. Alors, comme je l'ai déjà dit, la pauvreté de l'enfant n'est pas une illusion, elle est réelle, véritable. Sans l'amour de ses parents, cette pauvreté originaire de l'enfant n'est que déchéance. Sans l'amour de ses parents, l'enfant ne peut rien, strictement rien. Si l'enfant n'est pas aimé, sa pauvreté n'est qu'un poids. Il doit unilatéralement devenir ce qu'il n'est pas, en niant ce qu'il est. Je m'explique. Ce qu'il est, bien, c'est ce qui n'est pas aimable aux yeux de ses parents, donc il doit devenir ce qu'il n'est pas, autre chose que ce qu'il est actuellement, puisqu'il n'est pas aimé dans sa condition actuelle. Alors évidemment, quand on grandit, on doit devenir ce qu'on n'est pas. Mais le point, c'est unilatéralement, devenir simplement ce qu'on n'est pas. Autrement dit, ne pas pouvoir s'appuyer sur ce qu'on est déjà. Et donc, dans ce cadre-là, la puissance et l'acte se scindent de manière dialectique, dans un jeu purement antinomique. de la puissance à l'acte, il n'y a plus cette continuité, mais il y a simplement, il y a de plus en plus une antinomie, une discontinuité, où se perd donc le sens de leur unité, de la puissance et de l'acte. C'est ainsi que quand fait défaut la lumière de l'amour, les déterminations de départ de l'enfant, en particulier sa dépendance physique et psychique, ne peuvent être décrites et vécues que comme des conditionnements qui enferment, qui aliènent, et auxquels il faut s'arracher dès que possible. Autrement dit, sous ce point de vue-là, être dépendant et devenir soi-même, ça s'oppose radicalement. On ne peut pas être à la fois dépendant et devenir soi-même. Et on retrouve là la pensée de Marx. La pensée de Marx, c'est une pensée où il n'y a pas de reconnaissance de la richesse de la dépendance, de la pauvreté. De telle sorte que l'enfant, sans être marxiste, évidemment, est livré à des contradictions permanentes. Particulier, alors, la relation à l'autre va se jouer chez lui exclusivement dans le registre du conflit, puisqu'il n'est pas en paix avec lui-même, il ne pourra pas être en paix avec l'autre, dans le registre de la captation, essayer de capter ce que l'autre a et que je n'ai pas, ou du rejet. Mais le plus fondamental, quand l'enfant n'est pas aimé, quand il ne vit pas dans la lumière de l'amour, c'est que le bien et la vérité perdent leur capacité à attirer l'enfant. Son intelligence ne peut pas s'ouvrir, sa volonté ne peut pas se renforcer et être attirée par le bien. Il est obligé de s'inventer un monde parallèle, un monde où il est aimé, de s'inventer une vérité parallèle, des biens parallèles, illusoires certes, mais qui comblent au moins ses fantasmes. L'enfant ne peut plus s'élever ni être élevé. Ainsi, il tombe dans une confusion sans solution entre le mythe et la réalité, entre le passé qu'il essaie de perpétuer sans cesse et l'avenir qui s'entremêle ou s'inverse même. C'est ainsi que, quand j'étais à Bruxelles, j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants handicapés. Et j'ai vu un enfant qui, n'étant pas aimé d'une manière détachée par sa mère, ne voulait pas accéder au langage, ne voulait même pas accéder à la position droite, puisqu'il voulait rester le petit enfant que sa mère voulait avoir pour combler son manque. Il n'y a plus de mémoire dans cette situation-là, il n'y a plus d'espérance qui ouvre. L'enfant s'exténue à la fois dans un déchirement excessif, dans la recherche de l'amour, dans une fermeture obstinée, dans la peur de ne pas être aimé. Et donc la dynamique de l'avènement à soi est livrée à un tel chaos qu'il devient impossible pour l'enfant de se prendre en main. Et c'est alors que l'expression que vous connaissez peut-être de Freud, de pervers polymorphe, devient une réalité. Alors chez Freud, l'expression de pervers polymorphe n'est pas une expression morale, elle veut dire simplement que l'enfant a au départ des pulsions non finalisées. Pulsions de voyeurisme, pulsions, etc. Bon. Au départ, des pulsions non finalisées, ça ne signifie pas que Freud pense que l'enfant, dans son langage de psychologue, soit pervers au sens où je l'emploie ici, mais en tout cas, si l'enfant n'est pas aimé, il peut devenir vraiment un pervers polymorphe, il peut devenir un être terrible. Donc sans amour, la pauvreté de l'enfant est vraiment enfermée dans l'indigence. Et on voit bien là que l'enfant est pauvre. Et c'est dans la lumière de l'amour que cette pauvreté de l'enfant se révèle féconde. L'amour manifeste que cette pauvreté originelle de l'enfant n'est pas simplement incomplétude, un manque, un néant. Elle est aussi une capacité de se laisser imprégner par l'ordre de la maison. En s'y acclimatant, la notion d'acclimatation est très importante pour l'enfant. Aussi pour nous, évidemment. Mais pour l'enfant, Sievert a bien montré que que l'enfant doit être progressivement acclimaté, une notion extrêmement importante au niveau moral en particulier, l'acclimatation progressive à quelque chose. Donc la pauvreté de l'enfant n'est pas simplement incomplétude, elle est aussi capacité à se laisser imprégner par l'ordre de la maison en s'y acclimatant pour être chez soi, à se laisser éduquer en vue de mûrir. Et c'est ainsi que grâce à cette pauvreté, l'enfant est ouvert à une infinité de possibilités et beaucoup plus ouvert que nous dans sa capacité de recevoir. De ce point de vue-là, Ulrich dit d'ailleurs dans un de ses livres que si un adulte pouvait garder la capacité de l'enfant à recevoir, il continuerait d'avancer à une vitesse exponentielle. Cette pauvreté de l'enfant le conduit à s'abandonner au règne parental. Vous voyez, Zivert parle d'une sorte de royaume de l'amour dans la maison. Enfin, au règne parental, tout en l'incitant progressivement à se gagner sur lui-même, à vaincre les résistances de son corps, à accéder laborieusement au langage, et même, à partir d'un certain moment, à s'ouvrir à un être ensemble durable avec ses pairs. S'il est aimé chaleureusement, l'enfant a la possibilité de n'être pas simplement en pénurie de soi, mais aussi en expansion de soi. De ce point de vue-là, juste une petite anecdote. C'est un enfant que raconte Zivert, auquel on donne pour la première fois un petit morceau de chocolat. Première fois qu'il fait l'expérience du chocolat. Et donc il met le petit morceau dans sa bouche, il le suce, et puis ensuite, pour montrer à sa maman qu'il est très bon, il le donne à sa maman. Voilà. Et puis la maman le goûte, elle lui rend, il le remet dans sa bouche, puis il y a son papa qui est là, alors il faut aussi que le papa partage le petit morceau de chocolat, donc il le donne à son papa. Le papa le goûte et lui rend. Bon, petit morceau de chocolat collectif. Cet enfant à qui on a donné un petit morceau de chocolat, on ne lui a jamais lu les pages de l'Évangile sur le fait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et pourtant, intuitivement, il a compris que sa joie, pour être pleine et entière, devait être partagée par les autres. Vous voyez, il est déjà dans une révélation, dans une intuition profonde de l'amour qui est prodigieuse. Grâce à son cœur qui est ouvert par l'amour de ses parents. Donc, s'il est aimé chaleureusement, l'enfant a la possibilité de n'être pas simplement en pénurie de soi, mais aussi en expansion de soi, dans le don de soi. C'est une vérité que les psychologues eux-mêmes ont du mal à reconnaître, puisque quand vous lisez les livres de psychologie, alors ça varie selon les livres, mais la capacité de donner pour un enfant, ça va de... Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est rarement reconnu comme une capacité précoce. Certains même disent que ça arrive extrêmement tard, dans la 12e année. Bon, en bref. Autrement dit, dans ce cas-là, les facultés de l'enfant ne se laissent pas simplement attirer vers l'extériorité à partir du manque qui les habite, mais elles se déploient aussi à partir d'elles-mêmes, à partir d'un surcroît de l'être en vue de s'incarner. Alors certains seront plus intéressés dans cette conférence par les exemples, et d'autres goûteront peut-être les phrases philosophiques que d'aucuns trouveront peut-être pompeuses. Bon. Mais la philosophie, il faut bien que ça soit un petit peu articulé pour que ça paraisse sérieux, sinon c'est pas crédible. Alors une philosophe comme Simone de Beauvoir était pour sa part absolument convaincue de l'incapacité de l'enfant à accéder à la liberté et à la responsabilité. Donc en parlant d'enfant, elle dit « Il peut être à son gré, indocile, paresseux, ses caprices et ses fautes ne concernent que lui. » Elle ne pèse pas sur la terre. Elle ne saurait entamer l'ordre serein d'un monde qui existe avant lui, sans lui, et où il est en sécurité par son insignifiance même. Il peut faire impunément ce qui lui plaît. Il sait que rien jamais n'arrivera par lui, tout est déjà donné. Ses actes n'engagent à rien, pas même lui-même. Bon. Quand on voit un enfant qui fait des bêtises, on peut comprendre ce que dit Simone de Beauvoir. On se dit, mais vraiment, il en a... Rien à cirer de la maman qui est fatiguée. Bon. Mais je trouve que ce propos est extrêmement réducteur et qu'elle ne montre pas le plus profond qu'il y a aussi chez l'enfant. Même l'acte de jouer chez l'enfant, qui paraît chez Simone de Beauvoir vraiment une inattention profonde au monde, n'est pas qu'un dilettantisme amoral. L'enfant, même dans l'acte de jouer, se construit. Il y a un exemple de Zivert qui le montre. Un petit enfant qui est en train d'enfiler des perles dans un collier, puis son papa arrive, et d'habitude, l'enfant était toujours en train, là, à accueillir le père quand il venait le soir, avec beaucoup de joie, vous voyez. Cet enfant, cette capacité d'accueil que nous-mêmes, nous avons perdue, et donc on est toujours heureux d'être accueilli par un enfant. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'extraordinairement jeune dans l'accueil, dans la joie d'un enfant. Bon. Donc il n'accueillait pas son papa ce soir-là, cet enfant. Et quand son papa lui dit « Mais pourquoi t'es pas venu m'accueillir ?» pour que je te pousse dans l'appartement sur un cheval. Et l'enfant lui répond, mais papa, je dois faire mes perles. Et c'est extrêmement profond cette phrase, parce qu'il dit, ça veut dire, je dois me construire à travers ce jeu de perles, qu'ensuite j'offrirai à ma maman. Vous voyez ? Et donc, enfermer l'enfant dans les espaces de l'aliénation, de l'irresponsabilité, c'est ignorer même qu'il cherche à se maîtriser, comme le montrent les psychologues, dès les premiers jours après sa naissance. C'est aussi ignorer les intuitions profondes de son cœur, son inclination au bien, sa fascination pour le beau. Avez-vous déjà entendu un enfant dire à sa grand-mère « Oh, comme il est beau, ton tablier, il est magnifique hein ?» Et du coup, la beauté du tablier rejaillit pour la grand-mère qui n'y faisait même plus attention à son vieux tablier. L'enfant n'est pas empêtré dans l'agitation fébrile de notre monde, souvent dénué de sens, mais il perçoit souvent des choses profondes. Peut-être attentif à des toutes petites choses. Maria Montessori l'a montré, il y a un stade où l'enfant, quand vous lui montrez une photo, il va regarder une toute petite chose dans la photo, le tout petit, où s'exprime une complétude, une plénitude, comme le disait déjà Balthazar. Lors d'un séjour dans un hôpital, une petite fille de 3 ans, qui s'appelle Anna, était en attente d'opération, et cette petite fille voit dans le couloir un bébé sourd et aveugle qui pleure, et que les infirmières n'arrivent pas à consoler. Donc elle pleure, c'est triste. Et donc il y a un livre, le cadeau d'Anna, qui parle de ce que fait Anna. Elle s'est déjà installée sur le sol, une petite fille de 3 ans. Le dos au mur, elle attend. Je m'assois avec précaution à côté d'elle et je pose le bébé sur nos genoux. Anna prend le livre de la bibliothèque et l'ouvre à la première page. Il y avait une fois une princesse, ce que dit Anna. Ainsi commence-t-elle à raconter son histoire, faisant semblant de lire. Puis elle retourne le livre et le tient ouvert à quelques centimètres de visage de Chundra, qui, je vous le rappelle, ne voit pas et n'entend pas. « Regarde, bébé Chundra, regarde, c'est une belle princesse comme toi et moi. » Quand Anna sent que chaque petite fille est précieuse et digne d'être aimée, il ne s'agit pas simplement d'un conte de fées qu'elle invente, c'est une vérité profonde qui s'exprime. Fin de la citation. Dans sa naïveté, elle est vraiment naïve cette petite Anna, comment pouvoir consoler un enfant qui n'entend pas, qui ne voit pas, en lui racontant une histoire avec un livre qu'on fait semblant de lire. Dans sa naïveté profonde, remplie d'imaginaire, cet enfant touche le réel en son cœur. Elle ne semble pas avoir pris acte de l'handicap du bébé, pourtant celui-ci se laisse calmer par la grâce de l'amour offert. Anna rejoint l'épicentre d'où jaillit la vie, alors même qu'elle ne semble pas savoir gérer objectivement les choses. Sa naïveté féconde rouvre mystérieusement l'espace de la relation qui apaise et rassure. Sa naïveté féconde rouvre mystérieusement l'espace de la relation qui apaise et rassure. La naïveté de l'enfant est souvent déconcertante parce qu'elle met de côté ce qui semble important pour l'adulte. Ce faisant, elle a une capacité non mesurable d'ouverture. Elle manifeste que l'indigence originelle correspond en réalité à une mise en lumière plus profonde et plus intégrale de l'être. L'enfant est de manière privilégiée, pour reprendre une expression de Heidegger, la clairière de l'être. En réalité, la force de l'enfant, et je réponds ici à Simone de Beauvoir, c'est que dans son indigence, il sait que la destinée du monde ne dépend pas de lui. Évidemment, il le sait. Il ne se prend pas pour un prophète, mais il aime à s'envisager, tout simplement, humblement, comme un être capable. Regardez les joies, la joie qu'ont les enfants à se mettre au service, à servir, à prendre leur part dans le service. Ben, ça dépend desquels, et ça dépend des moments. Mais bien conduit, un enfant aime pouvoir dire qu'il a mis la table tout seul, ou même aidé par quelqu'un d'autre. Dès lors, il n'est pas écrasé par des responsabilités imaginaires qui paralysent et aveuglent. Vous voyez, comme celle que j'avais avant de vous faire cette conférence, en angoissant beaucoup. Alors finalement, tout le monde s'en fout. Il peut s'adonner à ses petits actes, où il cherche souvent à bien faire, sans autre prétention que d'accomplir avec fierté sa mission. Il est vrai que la mobilité du moi de l'enfant fait qu'il accumule parfois beaucoup de bêtises. Mais quand ses transgressions ne sont jamais reprises, il se sent perdu. Il part désespérément à la recherche de ses limites pour éprouver l'être de sa liberté. Donc, pour conclure cette partie, et j'irai plus vite sur les autres parce que je vois que je ralentis mes propos en vous donnant beaucoup d'exemples. Comme l'écrit Ferdinand Ulrich, la pauvreté de l'enfant, sa naïveté, conditionne son devenir soi, conditionne sa maturation. Elle est ainsi sa plus grande richesse. En elle se révèle non seulement sa finitude, mais aussi son ouverture non mesurable à l'être. Mais cette richesse ne se manifeste que par la vertu de l'amour. La simplicité de l'enfant lui permet en effet de se laisser enrichir dans l'amour et de manifester ainsi le pouvoir de l'amour. Qui plus qu'un enfant peut manifester le pouvoir de l'amour? Et j'en arrive à ma deuxième partie, la puissance de l'être filial. Si la pauvreté de l'enfant apparaît comme la source de son pouvoir, moyennant le don de l'amour, c'est qu'elle s'inscrit dans l'horizon de l'être filial. L'enfant vit sa filiation dans la plus grande simplicité, dans la plus grande évidence qui soit. C'est à partir de celle-ci qu'il assume son indigence et sa richesse en se recevant d'autrui, en découvrant sa propre identité et en s'appropriant son être au monde. Tout se réalise à partir de son être filial, qui est au cœur d'une anthropologie véritable. Pour moi, à partir de mon travail, et quelqu'un aussi qui l'a montré et à qui je rends aussi hommage, Gaston Fessard. L'être filial se manifeste comme structure archétypique de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, structure archétypique de la conscience? Il commence à décrocher dès que les mots deviennent plus complexes, c'est normal. Ça veut dire l'une des évidences les plus profondes et les plus déterminantes de la conscience. L'une des évidences les plus profondes et les plus déterminantes de ma conscience, en particulier chez l'enfant, c'est « je suis le fils de ». Je suis l'enfant de. En tout cas, quand les choses se sont passées normalement. L'enfant reconnaît précocement la position de la mère et la position du père et cherche un refuge en eux. C'est ce que Gaston Fessard dit. L'enfant a une connaissance intuitive de sa filialité. Je cite Gaston Fessard dans Le mystère de la société, page 268. L'enfant qui n'est point encore parvenu à ce que Comte, Auguste Comte ou Brunswick appellerait l'âge positif, a une vue beaucoup plus exacte de sa propre réalité humaine et en même temps sa vue est beaucoup plus métaphysique. Car s'il s'interroge ou si on lui demande pourquoi il existe, il répondra sans hésiter « parce que papa et maman l'ont voulu et m'ont aimé ». Évidemment, la réponse n'est pas toujours aussi spontanée. En fait, elle dépend étroitement de la manière dont l'enfant a été accueilli. Et même quelle que soit la force de sa perception intuitive, il doit être initié par autrui au mystère de sa venue. Autrement dit, c'est vrai que l'enfant a des intuitions profondes, mais en même temps, le paradoxe, c'est que dans sa pauvreté, dans ses intuitions, il doit toujours être initié et confirmé. Et donc, si dans sa quête de l'origine, l'enfant désire, et vous l'aurez remarqué, ceux qui sont parents, savoir de manière quelque peu étayée comment il est venu à l'existence, alors on lui donne l'explication qu'on peut, il faut lui en donner en tout cas, c'est qu'il perçoit l'importance de connaître son origine. Il en va de la cohérence de son être filial, de son âme et de son corps, tout autant que de sa propre capacité à donner la vie. On est ce que l'on a. On est ce que l'on a. Parfois, on fait une distinction, à mon avis, trop radicale entre l'être et l'avoir. On est ce que l'on a, et on a ce que l'on a reçu. L'enfant se reçoit de ses parents, et l'avoir premier, qui est celui de la vie donnée et reçue, fonde la possibilité de tout avoir ultérieur à recevoir. Comme être engendré, l'homme a vocation à demeurer toujours et fondamentalement un être filial. Dans un être filial, il est fondé dans un recevoir ontologique qui a sa source dans un don de personne à personne. Donc l'enfant est l'être par excellence qui vit dans le recevoir. Sa vie, l'affection, son éducation, sa nourriture, etc. Il reçoit tout. Il sait qu'il doit tout recevoir dans la reconnaissance. Et donc, dans ce recevoir, sa filialité le rassure. Elle lui permet de recevoir. S'il n'était pas fils, il se dirait, mais pourquoi me donne-t-on autant ? Et donc, l'enfant est ainsi témoin de ce recevoir constitutif de l'être créé, dont le fondement est l'être filial. C'est parce que nous sommes fils que nous sommes habilités à recevoir et qui trouve son accomplissement dans le remerciement. Et l'intuition des mamans à apprendre l'enfant à dire merci est une très belle intuition. Mais pour que l'enfant puisse réellement recevoir, cela demande que les parents se dessaisissent progressivement de leur enfant. Autrement dit, le dessaisissement des parents rend possible cette donation sans retenue dont l'enfant se reçoit. Il y a Claude Bruyère qui cite dans l'être et l'esprit cet adage juridique « donner et retenir ne vaut ». La difficulté des parents, c'est de donner sans retenir. Et donc cette donation des parents n'a pas vocation à se laisser réduire dans une emprise possessive. C'est seulement à partir du don gratuit, c'est-à-dire du don sans retour imposé, que peuvent se construire harmonieusement l'avènement à soi et l'ouverture à autrui de l'enfant. Autrement dit, pour devenir soi, l'enfant a besoin d'éprouver qu'il vient d'une communion féconde qu'il a engendrée en le donnant pleinement à lui-même sans retenue. Si les parents n'arrivent pas à donner progressivement l'enfant à lui-même, oui, là, la dépendance se tourne en aliénation. Mais si l'enfant est pleinement donné à lui-même, il peut sans crainte fonder en autrui les fondements de sa vie. Il n'a pas peur de fonder dans ses parents les fondements de sa vie dans la mesure où ses parents le donnent à lui-même. Et jusque dans ses dimensions les plus profondes. Autrement dit, la dépendance vis-à-vis de ses parents, eh bien, ne va pas l'enfermer dans l'immaturité. Dans la mesure où l'autorité joue sainement son rôle. Elle lui permet d'advenir à lui-même dans la confiance en soi et en autrui. Elle l'incite à prendre sa part dans la vie du foyer. Alors je ne développe pas plus parce que je dois quand même avancer, mais vous voyez ici que l'être filial constitue l'horizon le plus profond de la personnalisation de l'enfant. Nous nous personnalisons, nous devenons nous-mêmes à partir d'un être filial. L'être filial inscrit sa destinée, la destinée de l'enfant, dans le dynamisme d'un recevoir et d'un donner. Il informe ses perceptions réceptives, ses puissances réceptives et oriente ses inclinations fondamentales. Autrement, en particulier, la capacité d'être et le désir d'être à l'image de. Une des déterminations de l'être filial, c'est être à l'image de ses parents. Être à l'image de, qui a son origine dans l'être filial, qui ne veut pas dire être simplement la reproduction des parents. Être à l'image d'eux, ça veut dire se construire à partir de ses parents. Eh bien, constitue un des axes du développement de l'enfant. Je ne peux pas beaucoup le développer, mais on peut le montrer à partir des inclinations de l'enfant à obéir et à imiter. On dirait, l'obéissance est parfois difficile à obtenir chez un enfant, mais il y a quand même une inclination profonde à obéir. Dans la mesure où l'enfant ne remet jamais, avant 7 ans, ne remet en général jamais, ou rarement, l'autorité de ses parents sur lui. Il ne remet pas en cause l'autorité de ses parents sur lui, même s'il a du mal à obéir. L'imitation et l'obéissance construisent l'enfant parce qu'il a une liberté qui est au principe et au terme de soi, et qu'il est capable, l'enfant, de personnaliser tout acte, y compris un acte où il imite, il le personnalise. Ou encore, c'est à partir de son être filial que l'enfant peut reconnaître son père, P-A-I-R, comme son frère ou sa sœur. Et à partir de là, à partir de l'expérience de la fraternité, apprendre à vivre dans un monde commun et partagé, qui est une dimension archétypique par rapport aux relations sociales. Bref, je conclus cette partie. L'être filial donne à la pensée et à l'agir de l'enfant toute son orientation et toute sa profondeur. Il détermine la reconnaissance de son être comme de l'être d'autrui. Avoir été reconnu par autrui permet à l'enfant de se reconnaître soi-même capable de reconnaissance. C'est là le fruit de l'effort de ses parents, c'est l'un des fondements essentiels de la vie. Alors je voudrais à présent terminer cet exposé par une dernière considération, pour ceux qui sont encore éveillés, à savoir que la simplicité de l'enfant, de son être filial, s'enracine dans la perception de son cœur. Autrement dit, l'enfant bénéficie de ce que j'appellerais la pureté naïve de l'acte de regarder en son origine. La pureté naïve de l'acte de regarder en son origine, alors que ce regard est ce que j'appelle une perception intuitive non scindée. Autrement dit, non découpée en point de vue. Tout est comme donné ensemble. L'enfant, au départ, n'est pas capable de distinguer les points de vue. Perception donc très unifiée, même si c'est une perception d'enfant. Certains psychologues ont affirmé que l'intelligence de l'enfant est au départ quasiment au zéro, au niveau zéro. Quand je dis certains, c'est tous dans la première partie du XXe siècle et de moins en moins depuis les années 70, heureusement. Il est l'ouverture, donc ce surgissement de l'esprit, par le règne de l'amour. Oui, mais selon mon point de vue, ce surgissement de l'esprit n'attend pas la capacité à conceptualiser. Pourquoi des psychologues ont fait cette remarque pensant que l'enfant est au niveau zéro? Parce qu'ils comparent l'intelligence de l'enfant à l'intelligence de l'adulte. Et donc, ils étudient l'intelligence de l'enfant en comparant celle-ci aux capacités de l'adulte, voire même aux sciences. Hein. Piaget est typique de cette attitude, pourtant on lui doit beaucoup, mais c'est typique. Allez voir les examens de Piaget, les analyses de Piaget sur l'enfant, il regarde les choses par rapport aux capacités de l'adulte. Bon. Or, les capacités de l'enfant, l'intelligence de l'enfant, n'attendent pas pour surgir la capacité à conceptualiser. Si vous mesurez l'intelligence de l'enfant, la capacité à conceptualiser, évidemment, on sera d'accord avec cette manière de voir. Mais en réalité, ce surgissement de l'esprit, c'est l'ouverture par le règne de l'amour de tout l'enfant à l'amour qu'il perçoit dans l'immédiateté de son cœur. Autrement dit, percevoir l'amour, c'est la capacité la plus profonde de l'intelligence. L'intelligence du cœur, qui selon moi est le fondement de toute intelligence. Ensuite, on ne fait que déployer des régions de l'intelligence. Mais toute intelligence s'enracine dans cette intelligence du cœur, qui est celle de l'enfant. Et donc, c'est pourquoi la première connaissance de l'enfant, comme perception originelle de l'amour, est réellement métaphysique. Comme l'enfant voit avec son cœur, les profondeurs de l'être se révèlent à lui dans une intuition naïve, simple et extrêmement profonde. L'intuition première de l'enfant, aussi son energeia, son énergie originelle, sont rendues visibles non seulement dans sa manière d'aimer, d'obéir sans servilité quand il est aimé, d'être attentif aux très petites choses, mais aussi dans son acte de parler qui rouvre l'originel en rappelant la connivence des mots et des choses. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des enfants vers l'âge de 5-6 ans? Les psychologues ont reconnu qu'il y a là un âge poétique. L'enfant est capable de nous faire, de nous montrer à nouveau la beauté du langage. Par exemple, il voit le trait laissé dans le ciel par un avion, par les réacteurs d'un avion. Il va dire, c'est comme une blessure dans le ciel. Vous voyez? Il y a des choses extrêmement belles que l'enfant exprime, dans sa capacité de poétiser, et qui nous remontrent, qui nous font apparaître à nouveau le monde, qui rouvre la beauté du monde, ce qui est la destinée même du langage. Le langage est fait pour nous manifester le monde, et l'enfant est capable, a cette capacité, d'utiliser le langage de cette manière quand il accède au langage. Selon l'expression d'Agamben, l'enfant destine le langage à la vérité. Avec lui, on voit vraiment que le langage est dévoilement. L'enfant, autrement dit, fait renaître le langage à sa vocation première dans une poétisation de monde, du monde. Ce faisant, le monde peut apparaître à nouveau dans la clairière de l'être. Dans sa perception intuitive non scindée, l'enfant vit dans le règne incommensurable de ce qui est originel, que le philosophe ne peut évoquer que très imparfaitement avec sa conceptualité abstraite. Car l'essence métaphysique, je cite Dievert, l'essence métaphysique de ce qui est simple est tout bonnement ceci, elle ne peut être mesurée. On ne peut pas mesurer métaphysiquement ce qui est simple. L'esprit de l'enfant se déploie ainsi à l'intérieur du paysage de l'être en partant de son centre. Son acte de reconnaissance naïf fait jaillir la vie. Dievert dit, il rassemble la plénitude dans ce qui est simple et la richesse dans la naïveté. Durant les premières années de sa vie, le regard de l'enfant sur ses parents est ainsi caractérisé, dans cette capacité à aller vers le cœur, vers le plus essentiel, par une unité exemplaire, comme l'affirme Dievert, où l'image ne se détache pas distinctement de son archétype. Autrement dit, l'enfant est au départ capable de voir le cœur de ce que constituent ses parents, de ce que sont ses parents comme parents. Mais il ne distingue pas l'image de l'archétype. C'est quoi l'archétype ? C'est Dieu. L'archétype de la parentalité, c'est Dieu. Sa mère symbolise pour l'enfant l'infini de l'amour sans lequel toute vie s'épuise rapidement. L'enfant, au départ, ne mesure pas l'amour de sa mère. Il pense que la mère dispose d'un amour infini pour l'aimer. Sa manière de chercher auprès de sa mère le réconfort signifie que l'enfant lui prête la capacité d'aimer sans réserve. À un moment donné, son père lui apparaît pour sa part comme le plus fort, comme plus fort que quiconque, de cette puissance bienveillante sur laquelle on peut fonder une vie. Pour preuve, cette exclamation pleine de conviction d'un enfant de 5 ans, que j'ai entendu au cours d'un cours de caté, ou d'éveil à la foi plutôt, on parlait à un enfant de l'archange Saint-Michel, c'était la fête de des archanges probablement, et l'enfant de dire « Mon papa est plus fort que l'archange Saint-Michel ». Ce qui serait vu comme une naïveté est en réalité extrêmement profond. C'est vrai que son papa est plus fort que l'archange Saint-Michel parce qu'il lui a donné la vie, ce que ne peut pas faire l'archange Saint-Michel. Ou encore, la demande de cet enfant à son papa, c'est un papa ambassadeur qui montre une histoire que raconte Dievert, un enfant pour la première fois un coucher de soleil, première fois que l'enfant voit un coucher de soleil, surtout expliqué par son père, donc c'est extraordinaire. Il a dû s'en rappeler toute sa vie puisque l'adulte s'en rappelle. Et l'enfant de dire à son papa, à l'issue du coucher de soleil, « Papa, refais-le !» Donc, ce que d'aucuns pourront interpréter du point de vue psychanalytique comme un fantasme de toute puissance, s'enracine en fait profondément dans la capacité intuitive de la conscience originelle de l'enfant. L'enfant reçoit tout de ses parents, et en premier la vie, et à ce titre, ils lui apparaissent comme étant doués d'attributs divins. Et donc, sans le savoir, l'enfant perçoit l'intimité de Dieu à l'homme. C'est pour cela qu'il est d'autant plus important que l'enfant voit un jour ses parents prier. Parce que comme le disait un adulte, qui se rappelait son père, qui était pourtant un ouvrier, donc dans la société pas quelqu'un de très élevé, mais pour lui c'était un grand homme, quand il voyait son père en bleu de travail se mettre à genoux pour prier, il se rappelle avoir pensé, il faut que Dieu soit grand pour que mon père se mette à genoux devant lui. Donc quand les parents se mettent à genoux devant Dieu et confessent qu'ils ne sont que des créatures, ça aide l'enfant à prendre conscience de la puissance de Dieu et à ne pas fantasmer la puissance comme étant celle de ses parents, donc celle des créatures. Ça l'aide à s'accueillir comme être fini. Alors si les parents ne sont pas croyants, il y a d'autres manières de confesser Dieu, en ne voulant pas, par exemple, combler l'enfant à tout instant, comme si on pouvait tout lui donner, répondre à tous ses fantasmes. Je conclue sur cette partie. L'amour, comme le dit Heidegger que je cite, l'amour est le regard ouvert sur l'être de l'aimé. Mais il le traverse pour atteindre le fond de l'être. L'amour de l'enfant pour ses parents va au-delà de leur apparition finie pour rejoindre l'infini qui la sous-tend. La confession explicite par les parents de celui de qui ils se reçoivent confirmera aux yeux de leur progéniture une intuition, son intuition première, tout en lui permettant de faire clairement la distinction entre l'infini et le fini. Ce faisant, l'enfant trouve un fondement plus assuré à ses choix moraux et à l'accueil de sa destinée. Alors, en guise de conclusion, je voudrais évoquer de quelle manière l'enfant, dans sa pauvreté et sa naïveté, dans sa simplicité, initie déjà certains chemins authentiques de l'acte de philosopher en reliant ses attitudes à des options philosophiques. Je vais relier certaines attitudes de l'enfant à des options philosophiques. Alors, vous savez que philosophie, ça vient de amour de la sagesse, hein, étymologiquement. Donc, si être sage, aimer la sagesse, c'est laisser être, diront certains, l'enfant ne laisse-t-il pas être dans son berceau, où il dort bien heureux et confiant, tandis que son temps s'écoule, le temps s'écoule hors de lui et en lui. Si l'entrée en philosophie correspond à l'intuition de l'angoisse, n'est-il pas lui-même confronté aux ombres fantomatiques qui le menacent? S'il philosophait, c'est s'émerveiller. N'en est-il pas capable, lui qui regarde les fleurs, les hume avec délicatesse, et les cueille pour les offrir en un bouquet à sa maman, comme s'il voyait en elle une épiphanie du bien? C'est redécouvrir autrui, n'est-il pas celui qui nous enseigne précisément la gratuité de l'amour? Si c'est questionner, l'enfant à l'âge où il commence à maîtriser les mots, ne traverse-t-il pas cette période où il interroge sur tout, insatiable de réponses, et cherchant le tout en toute chose, n'est pour autant jamais indiscret, car il regarde tout avec sa naïveté enfantine. Même quand l'enfant vous pose une question indiscrète, il n'est pas indiscret, parce qu'il est naïf. Si c'est manifester ce qui apparaît à la conscience, ne le fait-il pas génialement dans sa manière de dessiner, je n'ai pas parlé du dessin de l'enfant qui est aussi très intéressant, de raconter ou de poétiser? Si c'est reconstituer un monde par la force créatrice de l'esprit, ne reconstruit-il pas son univers dans son imaginaire où toute réalité par sa valeur symbolique est porteuse d'un surcroît que seul il connaît? Ceux qui ont lu Calvin et Hobbes voient de quoi je parle. Ou encore, si c'est avancer vers de nouvelles prises de conscience et se libérer de ce en quoi nous sommes englués, n'aspire-t-il pas à dépasser ses limites et n'est-il pas capable de déchirer, de détruire, de se révolter, sans que jamais pour autant il ne nie le fondement qui le porte et le guide? Il lui suffit de le relier à soi dans l'amour pour en désamorcer l'aspect aliénant. Le mérite de l'enfant est que ses attitudes et ses questions ne proviennent pas de considérations logiques abstraites, mais d'expériences singulières, d'intuitions profondes, de vibrations du moi à des appels du dehors et du dedans. Je vous remercie.